Nous sommes mercredi 22 octobre 2025. Vous n'avez pas répondu au Fisherman 7.6 et vous écoutez le Dojo Bar. Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Mecton.
Bonsoir.
Et bonsoir Zergy.
Bonsoir.
Oh, Zergy, on t'entend pas beaucoup. Il faut faire mettre le micro un tout petit peu plus fort. Ce soir, dans le programme du Dojo Bar, alors en plus de, n'oubliez pas de répondre à Fisherman, c'est important, les vrais savent, on va parler de monnaie virtuelle, on va parler de Hades, précisément, enfin plus Hades 2 que Hades 1, mais on va revenir un petit peu sur Hades 1 parce qu'on n'en avait jamais vraiment parlé dans un vrai sujet dédié.
Oui, bon, c'est un peu un tir groupé, quoi.
Voilà, on fait un tir groupé, on profite du 2, on est bien. Mais on va commencer tout de suite par le tour de table de l'actualité. Et Zerky, je te propose de commencer avec une petite nouvelle qui... Je l'ai vue cet été, je t'ai vu en parler. Voilà, ça, je sais que ça te fait très plaisir. Donc je t'en prie.
Alors, ça fait plaisir. Alors en même temps, est-ce que c'est pas un petit peu triste aussi?
C'est un peu triste aussi. Moi, ça me rend un peu triste.
C'est à l'image du temps qui change, en fait. Puisque cet été, on a appris la mort de la mafia du rétro gaming de Boulevard Voltaire. Les magasins ont fermé et fermé. À ce que j'ai compris, ils vendent plus de jeux vidéo, mais des trucs liés à la pop culture. Donc, du coup, ils doivent vendre des Funko Pop ou des conneries comme ça, je pense.
Mais comme Micromania, en fait.
Ouais,
oui,
c'est un peu ça. Donc, il n'y a plus de Obi-Wan, il n'y a plus de ces magasins où il y avait des prix tout à fait pas du tout abusés. Il n'y a plus de... Enfin bon. Mais en fait, non, ils se sont diversifiés en réalité. Parce que finalement, leur raison d'être, c'était l'import.
Oui, ils ont commencé avec l'import dans les années 80-90. Et puis après, ils sont dirigés vers le rétro gaming. Alors oui, parce que pour les plus jeunes, hein, maintenant, on a des sorties mondiales. Il y a 30 ans, c'était pas le cas du tout. Hein.
Il y a 10 ans déjà.
Oui,
il y a 10 ans déjà, c'était pas gagné.
10 ans, ça a commencé à être à peu près mondial, mais bon. Ouais.
Oui, les sorties mondiales, ça a commencé avec la Xbox 360, en gros. C'est à peu près ça. Cette génération-là où, effectivement, tu avais des grandes sorties.
Synchronisées. Et puis, en fait, c'est ça. C'est des magasins qui ont commencé avec l'import dans les années 80-90. Et encore, fallait être au courant. C'était surtout les Parisiens.
Puis tu payais ça un bras et une couille.
Oui, tu payais ça un bras et une couille, puis il fallait attendre. Et puis après, ils se sont mis à faire du rétro gaming quand l'import s'est un petit peu terminé, le rétro gaming a pris le relais. Et puis maintenant, c'est trop cher, ils ont mauvaise réputation. Le rétro gaming, il y a moyen d'en faire de manière plus accessible. Émulation.
On n'a rien entendu. Oui, c'est vrai que c'est devenu beaucoup plus accessible, donc c'est pas choquant que ça s'arrête. Après, des magasins hyper spécialisés comme ça, est-ce que ça a encore du sens en 2025 où t'as effectivement, tu vas sur un Vinted, un eBay, un Bon Coin, enfin Bon Coin peut-être un peu moins maintenant, t'avais une offre largement plus pléthorique à des prix largement plus accessibles.
Oui, eux en plus ils avaient eu mauvaise réputation quand même à la fin.
On chillait des jeux vendus deux fois leur prix d'origine, juste parce qu'ils sont encore dans leur boîte d'origine, quoi.
C'est ça. Puis il y a eu quand même quelques sombres histoires de... on va pas dire d'arnaque, parce que ce serait peut-être un peu abusé comme terme, mais où effectivement des gens allaient à la République et puis en fait ils achetaient des contrefaçons, quoi. On en a entendu parler. Même il y a 10-15 ans, on en entendait déjà parler. Je vais enchaîner avec le deuxième petit sujet d'actu. Vous vous rappelez, il y a deux semaines, on a dit que Microsoft, ils allaient mourir.
Non, mais on espère un peu maintenant.
Maintenant, on espère vraiment qu'ils vont mourir.
Il y a 20 ans, c'était Nintendo va mourir, maintenant c'est Microsoft va mourir.
Oui, sauf que là, c'est plus probable. Il faut qu'on lance le hashtag Microsoft Xbox va mourir. Ça me paraît bien. Donc Microsoft continue de s'enfoncer les prix des kits de développement de la Xbox, des Xbox Series, donc Series X et Series S, ont augmenté considérablement puisqu'ils sont passés de 1 500 $ à 2 000 $. Alors, en réalité, c'est une augmentation de prix qui fait jamais plaisir à personne, mais c'est vrai que pour des gros studios de développement, ça n'a que peu d'importance, même si on rappelle que ces kits de développement servent effectivement et à développer et à débugger. Et en fait, c'est surtout ça. Il y a quelques machines de développement et il y a beaucoup de machines de debug qui servent surtout pour le test et autres. Donc ça impacte quand même le prix du développement pour développer sur Xbox Series. C'est-à-dire, quand tu es un petit studio, je ne sais pas, par exemple Supermassive Games ou Supergiant Games, pardon, et que tu dois développer ton jeu pour Xbox.
Supermassive est aussi un petit studio.
Supermassive est aussi un petit studio, mais c'était pas celui de l'épisode, c'est pour ça que j'essaie
Ah
d'être
oui.
d'accord.
Alors, par contre, est-ce que ça change un truc? Parce que si t'as déjà ton kit de dev ou de debug, t'as pas
Ça change
besoin de
pas
le repayer.
grand-chose. Ouais, non, de toute façon, ça change pas grand-chose. Alors, sauf s'il y a c'est possible qu'il y ait quand même un abonnement annuel, je serais pas choqué, mais pour l'instant, on n'a pas entendu parler de ça, ou d'une augmentation du prix de ce truc-là. Et je pense qu'il doit y avoir un abonnement annuel pour avoir la maintenance ou le support et tout le bazar là-dessus. C'est pas juste le kit de développement. Mais
Dans le
effectivement,
milieu, on
si.
appelle ça une licence.
Bah oui. Je pense qu'il doit y avoir une licence annuelle aussi. A priori, elle n'a pas augmenté, mais voilà. La deuxième petite chose concernant Microsoft, c'est que avant, quand on avait le Xbox Game Pass, on avait automatiquement une réduction sur tous les DLC qu'on souhaitait acheter pour n'importe quel jeu qui était disponible sur Xbox. Donc, si tu étais abonné à Xbox Game Pass, non seulement tu pouvais profiter d'une librairie de jeux gratuite, mais si tu souhaitais acheter le DLC d'Assassin's Creed 4, eh ben, tu pouvais acheter le DLC d'Assassin's Creed 4 à un prix réduit systématiquement. Cette réduction a disparu. Voilà. Donc, si tu étais friand de Game Pass pour jouer à des jeux ou que tu t'en servais pour avoir une réduc pour les DLC, entre guillemets un petit bonus, ben maintenant c'est fini, il n'y en a plus. Voilà. Moi, je trouve ça intéressant de voir à quel point ils sont capables de se tirer une balle dans le pied. Et avec deux fusils à pompe et un lance-roquettes. Enfin, bref, ils sont vraiment pas doués, quoi. Voilà, je sais pas à quoi en penser véritablement. Enfin, je sais pas à quoi ils jouent. Soit ils se sont rendus compte qu'effectivement ils transpiraient de l'argent de partout et qu'il fallait absolument tout arrêter. Soit il y a une stratégie derrière, mais je ne la comprends pas. Soit ils essayent de tuer la marque Xbox, je ne sais pas.
Ils ont dû embaucher le cornu, je pense, hop. Plein de rigueur.
Automatiquement de la rigueur. Beaucoup de rigueur.
Non mais chez Microsoft, il paraît qu'il y a 30% du code maintenant qui est fait par de l'IA, donc je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Hein.
D'ailleurs, ils ont. C'est quoi, c'est cette semaine? C'est la semaine dernière, ils ont cassé Localhost, apparemment. Enfin, ils ont cassé
Oui,
un truc que personne n'imaginait casser, en fait.
comme à chaque mise à jour de Windows 11, il y a un truc qui a planté. Hein.
Ouais, c'était peut-être pas une bonne idée de mettre de l'IA partout, hein, quand on voit ce que ça donne. Bref. Je vous propose de faire une première petite pause musicale avant qu'on aborde le sujet de la monnaie virtuelle.
Attends,
Alors,
j'avais
c'est
un
un
petit
sujet
truc.
sensible. Ah, il y a un sujet d'actu surprise qui apparaît.
Non, mais c'est un petit sujet d'actu sympa. Mais Nintendo US, via l'éditeur Piggyback, va proposer prochainement, au prix de 50 $, un artbook de Metroid Prime 1, 2, 1, 2 et 3. 212 pages avec plein d'images. De production, des notes de producteur, donc un truc qui est quand même pas trop mal documenté, et ça c'est plutôt cool.
Et ça va être quali, parce que
Et
j'ai
ça va être
beaucoup de choses.
disponible, et c'est disponible pour Halloween.
Ouh, ça c'est bien, ça veut dire que c'est disponible dans très 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 bientôt.
Oui, mais alors pour les dates européennes,
Ah, ça va venir, au pire on l'importera, un bouquin importé
Ouais,
ça
c'est
sert à
ça.
cher
Tu
qu'un
vas te
jeu.
prendre les droits de douane de Trump si tu l'importes.
Ah, et on nous dit qu'il y a une preview de quelques pages qui est disponible en PDF en ligne, si vous voulez vous faire une petite idée de la qualité du
Voilà,
artbook, ça peut être une
au
bonne
pire,
idée.
vous irez dans les boutiques de Voltaire si elles existent encore.
Peut-être. Bref, on va s'écouter un petit morceau de la bande originale d'Hades 2. Le morceau s'appelle Spider Silk, c'est composé par un monsieur qui s'appelle Darren Korb, exactement le même que pour le 2 du 1, c'est le même compositeur. Voilà, ça dure un tout petit peu plus de 2 minutes et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour.
Bonjour.
Récemment, il y a eu une petite nouvelle du côté de l'Union Européenne dont nous parlerons en toute fin de sujet. C'est ce qui a en partie inspiré ce sujet qui en fait traîne dans un coin de ma to-do list du dojo. Parce que oui, j'ai une to-do list du dojo où je note les trucs qui peuvent être intéressants. Et à un moment, je me suis dit, tiens, il y a un truc qui est ressorti. Peut-être que ce serait intéressant de sortir ce sujet-là. On a beaucoup parlé ces dernières années de lootbox, de microtransactions, de à quel point ça pourrit le jeu vidéo, tout ça. Il y a un sujet qui passe un peu en dessous des radars, alors pas toujours, hein, il y a certains qui en parlent, mais je veux dire qui passe un petit peu plus en dessous des radars, c'est tous les systèmes de monnaie virtuelle et tout ce que ça implique derrière. Et c'est à ce sujet-là que j'aimerais qu'on s'intéresse ce soir, à se dire, bah, c'est quoi une monnaie virtuelle ? En fait, qu'est-ce qui fait que... pourquoi est-ce que des éditeurs créent des monnaies virtuelles ? Qu'est-ce qu'il y a comme technique de manipulation derrière ? Parce que vous allez voir qu'il y a énormément de trucs très très putes. Hein, on va utiliser les vrais mots. On va dire les termes, comme disent les jeunes.
Non, parce non, c'est pas des trucs de putes. Ce sont des méthodes commerciales pour maximiser les gains.
Oui, ce n'est pas... c'est un mécanisme de surprise. Ouh ! Bref, donc vous allez voir qu'il y a plein de choses derrière qui sont très problématiques, et l'idée c'était un petit peu de décortiquer toutes ces techniques-là et de vous montrer à quel point c'est manipulatoire et qu'il faut essayer de pas tomber dedans, même si c'est pas toujours facile. Encore une fois, ce sont des techniques qui sont faites pour vous entraîner là-dedans.
Et puis des fois, on n'a pas le choix surtout. Enfin, on n'a pas le choix. Si tu veux...
Tu peux refuser, mais...
Si tu veux acheter des trucs en jeu, parfois tu n'as pas le choix.
Exactement. On va commencer par ce que c'est en fait qu'un système de monnaie virtuelle. Ce qu'on appelle un système de monnaie virtuelle, c'est assez simple. C'est les V-Bucks dans Fortnite, c'est les cristaux dans League of Legends, c'est, si on remonte un peu plus loin, c'est les points Wii, quand on avait encore la Wii et qu'on pouvait acheter des trucs sur le Wii Shop. Non, c'était pas le Wii Shop, c'était l'eShop de la Wii, non, ça s'appelait pas comme ça.
Je sais plus.
Nintendo Shop.
La Wii Boutique.
La Wii Boutique. Oui, c'était en français, la Wii Boutique.
Avec cette musique incroyable.
C'est ça qu'on aurait dû mettre en musique de fond, putain, voilà. voilà une occasion ratée, hein. On va se le dire. Voilà, et en fait, l'idée, c'était que tu n'achetais pas les jeux que tu pouvais acheter sur la boutique Wii, tu ne les achetais pas directement avec de l'argent. Il n'y avait pas écrit « ce jeu coûte 3 euros, ce jeu coûte 5 euros, ce jeu coûte 10 euros ». Il y avait écrit « ce jeu coûte 800 points Wii, ce jeu coûte 300 points Wii ». Et en fait, il fallait faire une conversion, il fallait acheter des cartes, ou fallait échanger directement de l'argent contre des points Wii, voilà. Pendant un moment, Microsoft faisait la même chose, je sais si vous étiez familier de la Xbox 360 à ses tout débuts, il fallait, pour acheter des jeux Xbox Live Arcade, il fallait obligatoirement acheter des points Microsoft. Et ces points Microsoft, soit t'achetais une carte en boutique, mais où il y avait écrit 10 euros, 1000 points Microsoft en gros, soit il fallait en gros avoir cette espèce de conversion en direct où tu sortais ta carte bleue, mais en fait tu n'achetais pas ton jeu 10 euros, tu achetais 1000 points Microsoft pour acheter ton jeu à 1000 points Microsoft.
Parce que tout ce qui est important, c'est que tu achetais les points par paquet de 1000, 2000 et compagnie, tu n'achetais pas le nombre de points dont tu avais besoin pour acheter ton jeu.
Alors si tu l'achetais en direct, si.
Ah, sur Xbox 360 ?
Sur Xbox 360, oui.
Ça fait longtemps. Hein.
Pareil sur Wii, en fait, quand tu payais directement avec ta carte bleue, en gros, il te disait, ça coûte 1000 points Wii, donc on va te facturer 10 euros. Ce qui fait qu'il y a plein de gens qui comprenaient pas pourquoi ce système-là existait. Mais on va vous expliquer pourquoi ça existe. C'est ça, l'idée. L'idée, c'est de se dire, mais qu'est-ce que ça cache ? Pourquoi est-ce que tu fais un système aussi compliqué ? Pourquoi est-ce que tu dis pas juste, ça vaut 10 euros ?
Et encore, faut se dire qu'à l'époque, il était plus simple et les conversions étaient plus naturelles que maintenant.
On va y revenir. Il y a eu deux, trois...
En tout cas, pour la Wii.
Pour la Wii, c'est resté relativement simple, mais voilà. L'idée, la première idée derrière tout ça, c'est masquer le prix réel. Un truc qui coûte 800 V-Bucks, le fait que ça coûte 7,49€, c'est pas très très instinctif. On l'a dit, pour la Wii, 1000 points Wii, c'était 10 euros, donc ça va.
Pouvais... Oui, surtout qu'en plus, pour les Japonais, c'était encore plus simple, parce que globalement, 1000 points Wii, c'est 1000 yens. Hein.
Ah oui, tiens, j'avais même pas tilté, mais effectivement, ils avaient un... C'est pas très très étonnant. Mais l'idée, c'est que comme ça t'oblige quand même à faire mentalement la conversion, tu vas vite pas faire l'effort. Donc effectivement, quand c'est un truc très clair comme les points Wii, 1000 points Wii, 10 euros, ça va. Quand c'est, je reprends Fortnite, 800 V-Bucks, 7,49€, ouais, c'est pas si évident que ça. voilà, t'es quand même obligé de faire un petit effort et d'avoir une petite table de conversion. Ça permet aussi à l'éditeur de ne jamais afficher les prix toutes taxes comprises ou TTC. Donc TTC ou hors taxe, tu n'as plus aucune idée de ce que c'est. Ça a peu d'importance en France parce qu'on a, nous, l'habitude, en Europe de manière générale, d'avoir les prix TVA comprises, mais ça pouvait poser un problème dans d'autres pays du monde, notamment aux États-Unis, où il n'y a pas de TVA, enfin, il y a plusieurs TVA qui s'appliquent aux produits en fonction des États dans lesquels on est. Et donc, effectivement, le fait d'afficher les produits hors taxe avec des points, ça fausse encore plus les choses. Parce que quand un truc coûte 800 V-Bucks, en fait, c'est pas 7 dollars et quelques, c'est plus 8 dollars et quelques. 8 dollars 50, une connerie comme ça. Donc, nous, on n'y pense pas forcément en Europe. Mais ça a une réalité pour un certain nombre de pays dans le monde. Je sais pas si c'est le cas au Japon, mais je crois qu'au Japon, tu payes tout, la TVA est incluse partout, enfin,
Il me
pas d'histoire, il me
semble,
semble.
ouais. Et c'est vrai que du coup, d'ailleurs, c'est important quand tu voyais les prix US et les prix européens qui se ressemblent. Rappelez-vous que les Américains payent plus. Parce qu'il n'y a
Oui.
pas les taxes pour les prix américains.
Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, si tu habites, alors je sais plus ce que c'est dans le Delaware, alors il n'y a pas de TVA fédérale, normalement, mais il y a une TVA étatique d'État. Enfin, dans chaque État américain, il y a une TVA particulière. Et ensuite, tu as des villes aussi, ou ce qu'on appelle en France des communautés de communes, mais en gros des great areas en général, c'est comme ça que ça s'appelle aux États-Unis, donc des gros regroupements métropolitains, dans lesquels généralement il y a une TVA aussi. Donc, en fonction de l'endroit où tu es dans l'État, tu peux aussi payer des taux de TVA différents. C'est très 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 particulier. Mais effectivement, le fameux 200 dollars, 200 euros, bah dites-vous bien que oui, les Américains vont plus payer 220 dollars en réalité, voire 240 dollars. Bref, fermeture de la parenthèse, il y a un autre truc, c'est que ça permet de masquer très très facilement l'augmentation des prix. Parce que finalement, quand 1 euro c'est 100 points, bah 1 euro c'est 100 points, tu vois, sur Wii ça a jamais changé, basiquement 1 euro c'était 100 points. Mais si tout d'un coup Nintendo se disait. Finalement, les 1000 points, la carte de 1000 points, on va plus la vendre 10 euros, on va la vendre 12 euros. Bah, ils peuvent dire que le prix n'a pas changé. C'est toujours affiché 1000 points pour tel jeu, tel DLC, telle application. Mais derrière, le prix a quand même augmenté. Ça permet de masquer l'augmentation. Il y a déjà eu un précédent sur le sujet. C'est là que je reviens au point Microsoft. Au départ, c'était très simple. Où effectivement, les points Microsoft, c'était genre 1000 points, c'était 10 euros. Et à un moment, Microsoft les a augmentés et c'est passé à 12 euros les 1000 points. Donc l'exemple n'était pas choisi complètement au hasard. Il y a un moment où effectivement, il y a eu une décorrélation complète et où là, fallait vraiment faire une conversion pour avoir les prix enfin, le prix réel des jeux Xbox Live Arcade sur la 360. Il fallait faire la conversion soi-même. Ce qui est assez pénible. Quand même se le dire. Un autre problème de ce truc-là, c'est que il n'y a pas vraiment de marché de ces monnaies virtuelles. Il y a eu quelques tentatives, je ne sais pas si vous vous rappelez, de EverQuest Online, World of Warcraft. Il y en a eu quelques autres comme ça, où il y avait un système de conversion entre la monnaie du jeu et la monnaie réelle, et qui était vraiment avec une courbe de marché, avec des gens qui investissaient dessus, vendaient, achetaient, enfin c'était un bordel sans nom.
Oui, tu veux dire de pouvoir récupérer de l'argent réel avec la monnaie virtuelle.
Ah bah oui. Mais un vrai marché, c'est-à-dire t'avais une vraie place de marché où tu pouvais aller échanger l'or que t'avais extrait dans World of Warcraft contre du vrai argent.
Oui, ça s'appelait les Chinois qui t'envoyaient des MP pendant que tu jouais.
Il y en avait, mais le fait est, il y a eu pendant un moment une vraie place de bourse, quasiment, avec un certain nombre de monnaies virtuelles. Alors World of Warcraft, je suis pas certain, mais je sais qu'EverQuest Online, il y a eu, où t'avais une économie virtuelle complète, les mecs s'étaient dit que c'était une très bonne idée de le faire. Alors, je vous le dis tout de suite, ça s'est toujours terminé en catastrophe, ce genre de choses-là. Il y a toujours eu des bulles qui ont fini par éclater. Enfin, ça n'a jamais vraiment marché, ça a toujours été le
Ils
bordel.
avaient fait la même chose pour Diablo 3, je crois, au début, et ils l'ont
Oui.
supprimé.
Oui, l'hôtel des
Alors.
ventes où tu pouvais acheter avec de l'argent réel les armes en jeu aussi.
Oui, tout à fait, oui. En plus, tu pouvais échanger effectivement les armes en jeu contre du vrai argent ou contre une autre monnaie virtuelle. Enfin, je sais plus comment ça marchait, mais bref. Donc, ce genre de tentative-là, ça a rarement fonctionné correctement. Et généralement, ça fait plus de mal au jeu qu'autre chose. Parce que ça attire forcément des spéculateurs, effectivement, les Chinois qui vont aller farmer pendant des heures. Ce genre de choses-là, c'est quand même un petit peu problématique, quoi. Et on a enfin une dernière douille de ce point de vue-là, qui est le fait d'avoir plusieurs monnaie à échanger dans le même jeu. Alors là, typiquement, on va reprendre l'exemple de League of Legends, où t'as genre les cristaux bleus, les cristaux verts, les cristaux rouges. Ils sont non échangeables entre eux, ils servent pas à acheter la même chose, et en plus, ils sont pas vendus au même prix. Donc là, c'est vraiment la douille totale, c'est que bah, si t'as acheté t'as mis 20 balles de cristaux bleus, bah, tu peux acheter des personnages, mais tu peux pas acheter les costumes. Faut obligatoirement acheter des cristaux verts pour acheter les costumes. Donc si t'as mis 20 balles de cristaux bleus et que t'as pu acheter un personnage à 15 balles, bah tu peux. Il y a un costume à 5 balles, tu peux pas l'acheter parce que t'as des cristaux bleus, pas des cristaux verts.
Oui, puis en plus dans le lot, tu vas avoir des monnaies qui sont débloquables, que tu peux avoir avec de l'argent normal, et d'autres que tu peux avoir en jouant au jeu. Bizarrement, les monnaies que tu peux avoir en jouant au jeu, elles sont plus longues à obtenir que les autres.
Et du coup, t'as systématiquement ou quasi systématiquement un système qui te permet d'acheter ces monnaies que tu peux gagner en jouant au jeu pour aller plus vite.
Pas toujours.
Parce que sinon, c'est pas drôle. C'est vraiment... voilà, on commence à rentrer un peu dans les techniques de manipulation, mais voyez, le fait d'avoir plusieurs monnaies, c'est aussi une manière d'aller un peu niquer les gens, quoi.
Oui, puis c'est aussi une façon d'éviter de renforcer encore plus de masquer encore plus le prix. Parce que du coup, t'as plusieurs monnaies. Mais des fois, des monnaies qui... Alors, tu dis qu'elles sont pas convertibles entre eux, mais des fois, elles sont convertibles. Mais les taux de change sont assez absurdes.
Oui. Je crois que c'est pas Diablo 4 où, effectivement, t'as une des monnaies qui... Tu peux acheter je sais plus quel type de points, et puis t'as un autre type de points, puis en fait, tu peux les échanger. Mais quand tu regardes le taux de conversion, tu te fais baiser de 20%, une connerie comme ça.
Ah, ouais, alors, je sais plus, mais par contre, c'est le problème d'énormément de jeux de mobile free-to-play où t'as des conversions entre les trucs que tu peux récupérer pour débloquer les personnages et tu sais pas vraiment ce que t'as. Mais d'ailleurs dans les gachas c'est même encore plus fourbe parce que tu payes pour avoir des objets qui te permettent d'invoquer les personnages mais tu ne sais pas ce que tu vas avoir derrière.
Oui. Donc, mais là tu reviens à une autre méthode de manipulation qui est le truc du hasard.
Non mais bien sûr, mais en plus de te faire payer que te faire payer directement pour avoir un personnage, on te fait payer pour pouvoir jouer au casino.
Oui, c'est ça, c'est ça le plus dramatique là-dedans, c'est avec que c'est vraiment
avec
le
souvent,
casino.
Avec souvent des petites incitations, je veux que tu peux t'en parler un peu plus tard, mais je te prends un peu d'avance.
Vas-y, je t'en prie.
De dire, bah, ah, tu peux acheter ce pack à 8€ qui te permettra d'avoir 10 orbes, mais si tu prends celui à 15€, tu auras une orbe gratuite. En plus des orbes en plus que t'auras. Et ça augmente au fur et à mesure. Donc en fait, t'es incité à prendre plus cher pour avoir plus d'orbes. Je prends l'exemple de Fire Emblem parce que c'est déjà en tête.
Mais t'as exactement le même truc, hein. Mais c'est vrai que t'as effectivement. Ça fait partie des systèmes un peu putes, c'est effectivement les points bonus. C'est-à-dire que bah, t'achètes la carte à 1000 points, elle coûte 10€. Mais la carte à 2500 points, elle ne coûte que 20€ au lieu de 25. Donc si t'achètes la petite carte, en fait, t'es entre guillemets perdant. Et t'as toute cette logique de promotion derrière, exactement ce que tu disais, hein, c'est de dire, bah ouais, mais en fait, si t'achètes 9 orbes, t'en as une gratuite, mais si t'achètes 19 orbes, t'en as 5 gratuites. Ce serait quand même dommage de passer à côté de 5 orbes gratuites.
Ouais, c'est ça. En plus, qui dit qu'elles sont gratuites, puisqu'au final, c'est l'éditeur qui fixe les prix, donc il fait ce qu'il veut.
Exactement, en réalité, c'est complètement débile. Mais c'est une technique de manipulation. Ton cerveau reptilien va se dire que tu fais une meilleure affaire à acheter 2500 points pour 20€ qu'à acheter 1000 points pour 10€. Même si au final, t'as pas vraiment besoin de dépenser les 2500 points en question. T'as plein de gens qui achètent la plus grosse carte parce que bah, t'as la plus grosse réduction. J'avais un coloc moi qui fonctionnait un peu comme ça, c'est-à-dire qui disait tu te rends compte, j'ai économisé 250 balles là-dessus. Je dis non, t'en as dépensé 1000. Il y a pas un moment si t'en avais pas besoin, t'as beau avoir fait des économies, ça change pas grand-chose quoi.
Il y a une remarque de Pab qui disait que dans le chat qui dit que pour la Wii, c'est possible que Nintendo ait mis ça en place pour avoir une solution. Les cartes vendues en magasin en cas de problème pour la gestion des paiements par carte. Ce qui en soi est pas faux, et puis il faut se rappeler, je pense aussi en 2007 que le paiement en ligne n'était pas aussi sécurisé que maintenant. Hein.
Ouais, c'est un peu plus bordélique. Hein. Donc c'est possible aussi. Hein. Le fait de dire c'est disponible en magasin, après il y a une petite nuance, c'est que quand t'achètes le truc en magasin, mais on y reviendra parce que ça aussi il y a une douille là-dessus, c'est un peu tristoun, mais voilà. Quand t'achètes une carte en magasin, généralement maintenant il y a le prix qui est écrit dessus, c'est plus un nombre de points qui est écrit, c'est t'achètes une carte de 10€ sur l'eShop.
Oui, ouais, ouais. Voilà. C'est peut-être. Comme il disait, il y avait peut-être aussi des questions légales. Je vois qu'il
dans certains
un message
pays, c'est possible. Tout à fait. Je ne doute pas que dans certains pays ce soit. Parce que c'est par exemple ce qui a empêché la Wii U d'avoir le lecteur de carte bleue directement sur le gamepad. Ce qui aurait été énorme. T'as fait une puce
Oh
NFC.
la vache!
Là, ça aurait été le truc de ouf.
Putain, heureusement que c'est pas arrivé ça.
Ah la vache.
T'as la Wii U Gamepad en guise de TPE.
Ah putain, t'arrives, bip! Tac, ça y est, les 60
Tu
euros prélevés, boum, le jeu
sors du
arrive.
restaurant. Tu sors au restaurant, tu payes, et là, il y a le mec qui sort son Gamepad pour te faire payer.
Ah oui! Ah oui, ça aurait été énorme! Ah mais au moins, peut-être qu'ils en auraient vendu.
Oh!
voilà, et on disait aussi les même technique hein, pour créer du manque, ça fait aussi partie des techniques de manipulation. C'est-à-dire que c'est le même système que quand t'achètes une carte Apple à 15 euros en magasin, mais il n'y a en fait jamais rien qui est vendu réellement à 15 euros sur l'App Store. C'est-à-dire que tu vas avoir des trucs vendus au mieux à 14,99 €, donc il va te rester 1 centime sur ton compte Apple. Bah, même principe dans un certain nombre de jeux, tu vas acheter 1000 points, mais le plus petit item va coûter 990 points ou 999 points. Et du coup, il y aura un point qui va rester. Un ou 10 ou 20, mais globalement, tu vas avoir quelques centimes de valeur qui vont rester. Et ça, c'est un truc qui va te rester dans le coin de la tête. Il y a ton, pareil, ça s'adresse à ton cerveau reptilien, hein, c'est de dire, ah oui, mais tu vas pas laisser ces 10 petits points moisir là, il faudrait que tu remettes un petit peu d'argent pour pouvoir les dépenser, parce que bah là, tu peux pas les dépenser. Finalement, tu as perdu ces 10 points-là, tu as perdu ces 20 points-là. Ça a l'air stupide quand on le dit comme ça, mais c'est des techniques de manipulation qui fonctionnent vraiment. Le fait de dire, tu as un portefeuille virtuel sur lequel il reste 15 centimes, 20 centimes, 1 euro, 2 euros, bah les gens vont être beaucoup plus incités à remettre de l'argent pour pouvoir en dépenser. C'est pareil.
Ouais, bah ça, c'est des choses qu'on a. Alors que moi, j'ai vu récemment sur Street Fighter 6 qu'a tout un store à base de monnaie virtuelle, qui du coup fonctionne effectivement comme ce qu'on a dit. Genre, je crois que pour un personnage, c'est 700 ou 770 Fighter Coins, qui est la monnaie payante. Mais le minimum que tu peux avoir sur Steam, c'est 900, tu vois, par exemple. Mais le truc,
C'est
c'est qu'avec
ça.
ce qui reste, tu n'achètes rien puisque tout est à 200 minimum dans le jeu. Et du coup, tu te dis, bah, en fait, acheter les personnages un par un, finalement, est-ce que c'est vraiment rentable, sachant que, comme tu dis, voilà, tu te retrouves avec de l'argent de côté, mais ce qui fait qu'aussi, tu dépenses plus que ce que dont tu as besoin.
C'est ça. Bah, deuxième technique de manipulation pour faire l'inverse, mais c'est ce qui arrive souvent, on citait effectivement le minimum de points que tu peux acheter, c'est 900, le personnage coûte 790, donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu... Quand tu achètes le plus petit pack de monnaie virtuelle possible, en réalité, bah, tu vas te faire niquer. Mais il y a une deuxième technique qui consiste à dire, bah, le pack suivant, il est à 2000 points. Cool. Mais l'item intéressant suivant est à 2050 points. Et donc en fait, tu peux pas non plus l'acheter directement en ayant juste acheté le pack à 2000 points. Tu es obligé de passer au niveau suivant qui va être le pack à 5000 points. Mais le problème, c'est que le pack à 5000 points, bah, il y a un méga item qui est juste au-dessus qui est à 5100 points. Et tout le système fonctionne comme ça. L'idée, c'est que tu as à la fois pas assez, tu as à la fois jamais assez d'argent pour acheter juste ce dont tu as besoin, mais parfois beaucoup trop par rapport à ce que tu as réellement besoin. C'est vraiment des techniques de manipulation, le fait de ne pas pouvoir dépenser exactement 790 points, enfin fighter points, fighter coin, je sais pas quoi là. Mais voilà, il y a les techniques de manipulation qui existent dans les deux sens. C'est-à-dire te faire payer trop par rapport à ce que tu as besoin, ou au contraire, avoir systématiquement pas assez, donc t'es obligé d'aller prendre le pack suivant, et une fois que t'as le pack suivant, bah forcément tu vas être encouragé à remettre de l'argent et ainsi de suite. Et c'est quand même un petit peu dégueulasse, on va quand même le dire. Et finalement, le plus problématique là-dedans, en réalité, c'est que bah, la conversion ne peut se faire que dans un seul sens. Et c'est surtout ça qui sert les éditeurs de manière générale, c'est que tu peux acheter des points Wii, tu peux acheter des points Farmville, tu peux acheter des points des Fighter Coins, mais tu ne peux pas les revendre, ni à d'autres joueurs, ni à l'éditeur. C'est-à-dire que une fois que tu l'as acheté, tu as acheté la promesse. Rien n'est remboursable. Si tu n'achètes rien avec, c'est pas le problème de l'éditeur. L'éditeur ne t'a pas vendu un objet, il t'a vendu quelque chose qui ne valait techniquement rien. Il t'a vendu une promesse.
Dont il a l'entier contrôle sur le taux de conversion, les prix et la durée de vie aussi.
Exactement, c'est ça.
Je
Je peux
sais
te
plus
dire,
si
c'est
on avait
valable que
des...
1 an.
Oui, je sais plus si on avait eu ces histoires-là, mais il y a déjà eu des cas, mais ils peuvent te dire au bout de 6 mois, ouais, ça marche plus. Salut!
Bah, on a eu le cas. En fait, si, on a eu le cas techniquement chez Nintendo aussi, puisqu'il y avait les fameux points or quand tu achètes un jeu qui étaient valables que
Oui.
1 an. Alors après, c'était plus un bonus, donc c'est vrai qu'on est dans
Les points or,
une.
c'est un programme fidélité.
C'est ça. Ça, c'est un petit peu différent. Mais le programme de fidélité que tu as chez Carrefour, il n'est pas en points Carrefour. Il est en euros.
Oui, certes.
Donc, le programme de fidélité aurait très bien pu être en euros. Dans ces cas-là, ça aurait été compliqué de les enlever. Les points or, on peut les faire expirer, puisque ça n'est pas une vraie monnaie. Donc, c'est pas un problème.
Exact.
Voilà. Et le dernier truc qui est un peu, qui est un peu fourbe dans toutes ces techniques de manipulation, c'est les promos pour les débutants. C'est-à-dire que la première fois, quand tu démarres ton Street Fighter 6 pour la première fois, on va te proposer un pack de bienvenue, en gros, qui va être vraiment pas cher. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 10 euros pour 800 points, bah, tu vas payer 1 euro pour les mêmes 800 points. Donc ce serait vraiment idiot de pas en profiter. Tu vois, tu serais vraiment un crétin si t'en profitais pas. Et c'est ça qu'on veut que tu ressentes. Le pire là-dedans, c'est que la technique derrière, c'est que il faut pas que tu... Enfin, tu n'as pas envie de passer pour un idiot. Donc, faudrait que tu l'achètes. Parce que sinon, tu serais vraiment idiot de pas l'acheter. Et c'est comme ça que c'est présenté. C'est toujours la même idée, c'est de se dire, il faut impérativement que tu ailles acheter. Alors, le truc, c'est qu'il faut... faut résister à ce truc-là, ce qui n'est pas toujours facile, hein, on va quand même se le dire. Parce qu'en fait, l'idée des éditeurs derrière, c'est que les gens qui ont acheté un pack une fois sont beaucoup plus susceptibles d'en acheter un autre après. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que tu as goûté, c'est comme c'est la technique de la drogue, hein, tu vois, la première dose est toujours gratuite. C'est exactement le même truc. Une fois que tu as acheté le pack à vraiment pas cher et donc tu as fait une super bonne affaire, bah, on va revenir à toutes les techniques précédentes. T'auras pu acheter un personnage à vraiment pas cher, mais t'auras 110 points restants sur ton compte. Dommage de pas en profiter. Pourquoi tu rachèterais pas un pack? Si tu rachètes un pack, tu pourras acheter un personnage, mais il te manquera encore un truc. Voilà. C'est la première étape psychologique. Ouais. Passer la barrière du premier achat. Ce que nous dit Pab, effectivement, c'est exactement ça.
Là, ça peut se combiner à du FOMO, Fear of Missing Out, dans le sens où on peut dire, ah non, mais...
ça n'est valable que le premier jour.
Ce n'est valable que le premier jour, et puis en plus, les personnes qui prennent ça, ils arrivent plus rapidement à cette partie du jeu, tu vois.
Oui,
donc tu peux combiner ça à des techniques, parce qu'on n'en a pas parlé, mais très souvent tout ça c'est lié à des techniques de game design extrêmement prédatrices aussi, où on t'encourage à payer pour aller plus vite, c'était le cas des Farmville sur Facebook,
tout à fait.
Où payer avec des points te permet d'avoir du meilleur contenu, ou d'avoir les meilleures armes rapidement, c'était le cas sur le Diablo Mobile notamment. Où les gens qui payaient avaient clairement un avantage en PVP par rapport à ceux qui payaient pas. Donc c'est pas juste les points. Dans le cas en tout cas des hors boutique en ligne, dans le cas des jeux où la monnaie est au centre, c'est qu'il y a aussi des techniques prédatrices derrière qui sont connues maintenant, mais qui fonctionnent puisque ce genre de jeu continue à sortir.
Tout à fait. Et comment dire? On a aussi un dernier truc un petit peu pute. Alors ça, c'est plus valable sur mobile. C'est un peu moins vrai sur console. Je sais pas si c'est le cas sur PC. Mais où l'idée, c'est que sur mobile, en général, la première fois que tu vas faire une transaction à l'intérieur de l'application, on va te demander une confirmation. Tu vois, on va te dire... comment dire? Est-ce que tu veux bien confirmer que tu vas faire cet achat? On va te le demander une fois, et en fait, cette autorisation va rester. Donc l'idée aussi, c'est de t'inciter à aller donner cette autorisation, de sorte à ce que la fois suivante, il y ait moins d'obstacles. Tu n'aies pas ce petit moment de doute où tu te dis, putain, je suis vraiment en train de mettre 10 balles dans ce jeu-là, quoi. L'objectif, c'est de supprimer cet obstacle-là. Donc le premier pack, il est vraiment pas cher, justement, pour que tu autorises les transactions à l'intérieur du jeu, et à partir de ce moment-là, une fois que tu l'as autorisé une fois, en général, ça reste, et à partir de ce moment-là, eh ben, la fois suivante, t'auras beaucoup moins de difficultés à te dire, bah tiens, je vais aller acheter 1500 points. Dernière technique de manipulation, encore une fois, beaucoup plus sur mobile, là, en l'occurrence, que sur console, ou même sur PC, je suis pas sûr sur PC, d'ailleurs, que ça existe. Enfin, je suppose que ça doit exister, mais...
J'appelle ça l'achat en un clic d'Amazon, hein.
Bah, c'est ça, hein. T'as plus besoin de sortir ta carte bleue. Tu remplis ton panier, t'appuies sur le bouton et c'est bon.
C'est leur truc à Amazon et je pense que ça marche très bien. Hein.
Je pense que ça marche très bien. Ce qui est très bizarre, c'est que les autres boutiques en ligne qui font ça, t'as quand même une confirmation de ta banque, mais Amazon, non.
Ouais, c'est le seul qui a réussi à bypass le 3D Secure. Raison de plus pour pas aller chez eux.
Raison de plus pour pas aller chez eux, effectivement. Mais c'est un vrai problème. Alors, dans cette marée de merde que je vous ai citée, alors, on a un peu cité les autres techniques de manipulation qui existent vis-à-vis du jeu lui-même, hein. le game design sournois, comment on pourrait appeler ça, le game design fourbe, le game design scélérat, ah c'est bien ça, game design scélérat. Donc en plus de ça se combine généralement avec d'autres techniques, mais le fait d'avoir de la monnaie virtuelle, c'est vraiment le point central là-dedans, parce que c'est le moment où on va aller réaliser véritablement la transaction. Et on va aller essayer de convertir du temps de jeu en pognon, des personnages en pognon, etc. etc. Donc c'est, je trouve, le nœud gordien du problème, et il se trouve que nos amis de la Commission européenne commencent à légiférer sur le sujet. Et on peut reprocher beaucoup de choses à l'Europe, mais sur les questions de liberté numérique, c'est plutôt en avance par rapport au reste du monde, c'est plutôt des leaders, et ça c'est quand même plutôt une bonne chose.
Attention, on a failli se prendre chat control quand même. Hein.
Oui, heureusement que l'Allemagne a bloqué, mais globalement, le RGPD c'était un peu en avance sur son temps, même si, alors c'est très discutable dans la façon dont c'est mis en œuvre, c'est quand même pas, voilà, plein de choses qui ne vont pas dedans, il y a plein oui, de loopholes, mais c'est déjà mieux que rien.
C'est assez bien fait pour que tous les GAFAM veuillent s'en débarrasser.
Bah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça ennuie les éditeurs de jeux vidéo, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les joueurs.
Oui, et puis même quand ça ennuie Microsoft et compagnie, Facebook et compagnie, c'est une
bonne nouvelle pour l'utilisateur aussi. Non, mais complètement.
C'est ça.
Donc là, il y a notamment un truc qui est arrivé il y a un mois et qui va être mis en place au fur et à mesure par la Commission européenne, c'est tu n'as plus le droit d'afficher juste le prix en points, donc en monnaie du jeu. Tu es obligé d'afficher la conversion en euros. C'est déjà en place dans Fortnite. Donc quand tu vas sur la boutique intégrée de Fortnite où il y a des prix en V-Bucks partout, bah maintenant tu as un petit truc en bas. Comme quand on avait le franc et l'euro, tu vois, c'est exactement le même truc.
Ah oui, petit c'est,
truc,
c'est
soit
petit
7,49€.
En blanc sur blanc.
Non, c'est écrit juste en dessous du prix en V-Bucks. Et il y a une taille réglementaire, parce que alors ça, on sait très bien faire en Europe, de dire il faut au minimum que ce soit telle police par rapport au vrai prix et tout ça.
Attends, c'est tellement des bâtards, ça va être des euros du jeu.
Oh la vache.
Ah les bâtards, il y a des vies euros, et là tu l'as dans le cul.
Ah, mais pour le coup, ça m'étonne pas qu'ils aient réglementé ça, parce que je pense que les mecs qui font la législation, ils savent très bien que dès que tu laisses une faille, les gens vont aller dedans.
Bah, c'est surtout que côté Commission européenne, on est en train de se poser la question, et c'est pas complètement débile, hein, il s'est posé la même question pour PayPal il y a 25 ans, c'est de dire, quand tu fais une transaction, en fait PayPal n'est pas une banque, ils ont pas de licence bancaire, ça n'est pas une banque, donc en réalité quand tu fais une transaction par PayPal, en fait, tu achètes une monnaie PayPal exactement à un taux de conversion 1 pour 1, donc tu achètes des euros PayPal, et eux, ils payent des euros PayPal au mec d'en face qui peut les rééchanger contre des euros normaux. Tout le système de PayPal, c'est basé en gros sur une espèce de loophole, sur un trou dans la réglementation, qui fait que bah, si ce que tu vends, enfin si ça n'est pas une transaction en euros, mais que c'est une transaction vers une monnaie virtuelle, puis ensuite cette monnaie virtuelle vers un autre compte, et ensuite de cet autre compte en monnaie virtuelle vers de la monnaie réelle, finalement, c'est pas une banque. C'est quand même extrêmement, extrêmement pute, mais c'est comme ça que PayPal s'en est sorti pour ne jamais avoir de licence bancaire. Sauf que, côté Commission européenne, on est en train de se dire, mais attendez, on s'est déjà fait baiser une fois, on va peut-être pas se faire baiser deux fois. Tout système de monnaie virtuelle, bah, c'est un système de monnaie, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas contrôlé, puisque la monnaie est la prérogative de l'État ou la prérogative de la Banque Centrale. Donc il n'y a pas de raison qu'on vienne pas mettre notre grenet là-dedans. Alors pour l'instant, la Banque Centrale européenne n'achète pas de V-Bucks, de cristaux de Fortnite ou de points Wii, mais à un moment, ils demanderont peut-être à interdire simplement ces systèmes de monnaie virtuelle. Je sais pas si vous vous rendez compte le bordel que ça pourrait engendrer. Ça pourrait devenir très 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 drôle.
J'imagine déjà la gueule des cours de bourse avec pour savoir combien un V-Bucks ça fait en euros au cours du jour.
C'est ça, et puis tu pourras échanger tes points FIFA Ultimate Team contre des V-Bucks. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire, quoi. Tes farm dollars, tu pourras les échanger contre des points Wii. Enfin, je pense qu'il y a, il y aurait un truc marrant à faire. Hein.
Une possibilité infinie de bulles...
de bulles spéculatives montées les unes sur les autres. Bref, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Côté Commission européenne, on a aussi une nouvelle réglementation qui va arriver pour interdire complètement les loot box. Alors je demande à voir.
La Belgique est en avance. Hein.
Oui, c'est voilà. Ça, c'est déjà le cas
de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves.
De tous les peuples du monde.
Non, la Belgique a été très en avance là-dessus, et ils avaient des très très grosses couilles sur le sujet, et ils ont bien fait. Et je pense qu'effectivement, il y a moyen que la Commission européenne s'en mêle, donc du coup, effectivement, il y a eu une levée de bouclier générale chez les éditeurs de jeux vidéo, en mode, mais vous voulez nous tuer, vous vous rendez pas compte ? Comment on va gagner de l'argent ? En faisant des bons jeux. Ce sera intéressant plutôt que de faire des casinos. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur le sujet? Je ne crois pas.
Alors moi j'en avais un petit dernier
Ah
qui m'est
oui.
revenu, c'est Roblox. Parce que je sais qu'on n'en parle pas beaucoup, nous.
Ah putain.
Ah, ça va parler travail des enfants là.
Alors bah, déjà il y a ça. Et eux ils ont une méthode pour récupérer de la monnaie virtuelle et la convertir en monnaie réelle. Alors j'ai plus tous les tenants et les aboutissants en tête, mais c'est des choses que j'avais pu voir il y a quelques années sur Internet. Déjà, tu pouvais pas récupérer de l'argent sans avoir un certain montant de monnaie interne à Roblox. Donc ça veut dire que tant que tu n'as pas atteint un certain seuil, tu n'as pas d'argent. Je crois que c'est le même genre de problème sur YouTube, notamment, il me semble, ou
Oui,
peut-être sur Twitter.
t'es obligé de, oui, t'es obligé d'accumuler un certain montant pour pouvoir te faire reverser. Ce qui fait qu'il y a plein de gens en fait qui se lancent, qui vont gagner des clopinettes, mais qui continuent à insister parce qu'ils espèrent, alors qu'en réalité, c'est aucune chance, quoi.
Et du coup, le taux de conversion, évidemment, est géré directement par l'éditeur de Roblox, qui bon, peut le changer quand il veut. Et il me semble même que tu te fais taxer un peu au passage. Donc, voilà, c'est une belle arnaque, ça aussi. Mais ça fait partie, c'est associé à un logiciel Roblox qui se vante de permettre à tout le monde de devenir le créateur de jeux vidéo et de gagner de l'argent dessus.
Ouais.
Je vois, hein?
Oui, non, mais c'est comme les trucs comme YouTube ou comme le Star System, quand on a 80%, ils gagnent des clopinettes, t'as le 20% au milieu qui arrive à peu près à vivoter, puis t'as 1%
Oui, t'as le
de
top
Rockstar, quoi.
1%. Ouais.
Oui, bah
Et encore top
avec,
1%.
ça marche aussi avec les free-to-play, avec des pratiques prédatrices et les développeurs indépendants.
Exactement. Donc, moralité, la monnaie, c'est pas virtuel. Faites pas ça. Ne tombez pas là-dedans. Ne vous faites pas avoir. Ou au moins, soyez conscient des techniques qui existent derrière. Posez-vous la question la prochaine fois que vous avez un jeu comme ça, qui vous propose une boutique interne. Regardez. Regardez les packs minimum que vous pouvez prendre. Regardez le prix réel des choses. Faites les conversions.
Et puis posez-vous la question déjà, est-ce que vous avez payé 60 balles pour jouer au jeu avant?
Exactement. Ah oui, parce que ça, ah oui, en plus de ça, mais ça, c'est, on va dire, c'est encore un autre problème. Mais je trouve que cette histoire de monnaie virtuelle, c'est intéressant parce que c'est vraiment le cœur du réacteur, finalement, de tout ce problème-là. Et en
Alors,
fait,
surtout
on
quand
pourrait le
c'est un
détruire très
jeu,
facilement, quoi.
surtout quand c'est un jeu que t'es obligé d'acheter tous les ans et de refaire toute ton équipe de foot.
Oh putain, il a osé parler de FIFA
Il l'a
Ultimate
remis. Il l'a
Team.
remis.
Bah, la source principale de revenus d'Electronic Arts depuis des années. Hein.
1 milliard 600 millions d'euros par an.
En fait, ce qu'ils vendent, c'est un
Par
accès
an.
à FIFA Ultimate Team
C'est ça.
maintenant.
C'est vraiment un scandale. C'est vraiment un scandale. Bref, c'est démoralisant. On va parler de trucs beaucoup plus moralisants parce que sinon on va pas y arriver.
Ouais, on va parler des enfers.
On va parler des enfers. On va écouter avant un petit morceau de la bande originale de Hades. Le morceau s'appelle Wretched Shades. C'est toujours composé donc par Darren Korb et on se retrouve dans un tout petit peu moins de 3 minutes. Et nous voilà de retour.
Retour!
Et donc on va parler de Hadès et Hadès 2. Alors on n'avait que très vaguement évoqué Hadès dans de précédents épisodes du Dojo Bar. On rappelle qu'il a été jeu de l'année, ou il a failli être jeu de l'année, non, il a été jeu de l'année 2022.
Il a failli être jeu de l'année
Failli être
2020,
jeu
mais
de l'année.
moi j'estime qu'il l'aurait mérité. Je ne sais plus quel a été le jeu de l'année 2020. Au Game Awards. Si tant est que cette cérémonie a une pertinence par rapport à mes goûts musicaux jeux vidéo, mais.
En vrai, ce qui compte, c'est le prix du public. Hein.
Ah bah, du coup,
Le
c'était Fire
reste.
Emblem en 2019.
Et ben voilà, problème réglé.
Ouais,
Comme ça, au moins, ça fait plaisir.
j'ai une petite présentation, comme
C'est
d'habitude.
ça. Ah, alors voilà, c'est ce que j'avais demandé. Est-ce qu'il y a une petite présentation? Et ben, il y a une petite présentation, on y va.
Bien sûr. Vivre, mourir, recommencer. Les plus cinéphiles d'entre vous auront sans doute reconnu le slogan du film Edge of Tomorrow sorti en 2014 avec Tom Cruise et Emily Blunt en acteurs principaux. Un film dans lequel les personnages affrontent des extraterrestres jusqu'à leur mort avant de revenir à la vie quelques minutes après pour tout recommencer. Ça vous rappelle quelque chose ? C'est normal, c'est le même fonctionnement que les roguelikes, genre favori de nombreux développeurs indépendants, mais surtout de Mortal, et dont les deux épisodes d'Hadès sont sans doute parmi les meilleurs représentants. Dans ces deux jeux nageant en pleine mythologie grecque, vous incarnez les rejetons d'Hadès, le dieu des enfers, dans le premier épisode, Zagreus, qui cherche à fuir les enfers suite à un désaccord avec son paternel, désaccord qu'il choisit de régler en tapant sur son papa plutôt que via une bonne thérapie. Et dans le second jeu, c'est Mélinoé, la fille cachée du même Hadès, qui se retrouve avec la tâche impossible de tuer Chronos, le dieu du temps, qui a pris possession des enfers de papa. L'un comme l'autre vont donc combattre pour accomplir leur but, grandir des dieux grecs dans tous les sens du terme, mourir, souvent, et recommencer. Heureusement que pour une divinité, la mort ne dure environ que 2,5 gouvernements le cornu. Bienvenue dans Hades, l'excellente série de Super Giant Game qui porte particulièrement bien son nom.
Alors, on commence par un petit résumé du CV du développeur, parce que il en est pas, c'est pas son premier barbecue, tu vois, les mecs.
C'est pas son premier barbecue. Alors déjà, le Super Giant Games, fondé en 2009 par Amir Rao et Gavin Simon, qui sont en fait des anciens d'Electronic Arts, donc comme quoi on peut avoir bossé à Electronic Arts et faire de bons jeux.
Et avoir une âme, encore.
C'est ça. Et pour le coup,
c'est quand tu quittes Electronic Arts, on te rend ton âme, en fait.
Tu peux la reprendre à la sortie, dans le vestiaire.
C'est ça, exactement, et que le fil avec ton carton sur ton bureau. Donc ils ont fondé studio en 2009. Ça a mis un peu de temps de sortir leur premier jeu, puisque en fait c'était Bastion qui est sorti, attends que je ne dis pas de bêtises, en 2011, donc 2 ans, ce qui est en fait plutôt raisonnable.
Oui, en plus c'est sorti, je crois que c'est justement ça a profité du boom du Xbox Live Arcade à l'origine, hein, c'est-à-dire que c'était un jeu qui était vendu à pas cher.
C'est vraiment le prototype du jeu Xbox Live Arcade de l'époque. Hein. C'est un jeu qui est pas très cher, un peu rétro sur les bords, donc c'est un jeu d'action vu de dessus, avec un univers assez onirique, qui est très sympa pour y avoir joué, j'ai beaucoup aimé. Là où il s'est fait reconnaître, c'était aussi par le fait que toutes les actions du joueur étaient narrées par un narrateur, avec une voix bien grave, comme on les aime. Donc voilà, c'était une bonne petite surprise. Ils vont ensuite réaliser 2 autres jeux qui sont Transistor et Pyre. Alors Transistor, je l'ai fait, il est sur Switch. J'étais pas ultra fan. Alors toujours un peu cette idée.
C'est un peu moyen, je trouve, Transistor. On retrouve les idées comme Bastion, c'est-à-dire cette espèce de vue isométrique, le fait de combattre des trucs, mais je trouve que la sauce prenait beaucoup moins.
Voilà, c'est ça.
Je saurais pas dire pourquoi.
Moi, je trouvais qu'il y avait un système qui était extrêmement intéressant, qui avait l'air extrêmement complexe. Mais le jeu t'encourageait pas à le triturer jusqu'au bout. Par contre, je trouve que parmi ce qu'ils vont proposer, on va retrouver beaucoup de choses dans Transistor qui vont donner à Hades plus tard. Notamment le fait d'avoir plusieurs variantes sur ses attaques. Et qu'on trouve aussi dans Bastion aussi avec plusieurs armes. Donc voilà, c'est quand même des choses qui vont monter au fur et à mesure. Le jeu d'après, c'est Pyre qui malheureusement est passé assez inaperçu. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer parce que c'est une exclu PS4 sur console. Malheureusement, j'aurais aimé qu'ils sortent sur Switch, mais en gros l'idée c'était qu'on suivait une bande de joueurs d'un espèce de sport de balle qui en fait font un tournoi pour pouvoir sortir du purgatoire. Alors c'est concept.
On retrouve une idée assez... C'est marrant parce qu'on a vraiment des obsessions qui se retrouvent, tu vois, entre ces précédents jeux et Hades finalement, il y a une espèce de filiation assez naturelle, je trouve.
Ah oui, non, mais je trouve que c'est un studio où tu peux vraiment suivre à la trace... leur style, bah d'ailleurs, dans les deux premiers, enfin dans Transistor, il y a aussi cette histoire de narrateur, puisque l'héroïne est muette, mais du coup, son copain qui a été transformé en épée fait la narration à sa place. Bah, je pense que dans Pyre, il y en a aussi de la narration, il y a aussi beaucoup de dialogue avec les PNJ. Wink wink, ce sera utile pour la suite. Et ce qui nous amène donc à Hades. Hades qui sortira en version définitive en 2020, mais qui est un jeu en Early Access. Donc je n'ai plus la date exacte de la sortie en Early Access, mais il a été présenté au Game Awards 2018. Ah oui, décembre 2018 pour l'Early Access de Hades. Ça fait partie de ces Early Access qui seront un peu montrés comme des exemples de jeux qui ont énormément évolué, de développeurs qui ont proposé régulièrement des mises à jour avec un vrai suivi, et aussi tout simplement des retours, des prises en compte des retours de la communauté. Le jeu sortira donc en septembre 2020 sur PC et sur Switch, qui est la première, qui était une exclu console temporaire et qui était un jeu vraiment parfait pour tenir le second confinement. Donc on
Tu
va.
en sais quelque chose, en fait c'est ça qui t'a marqué, c'est pas tellement le
Clairement.
jeu, c'est le second confinement.
Alors en fait le jeu m'a marqué pour plein de raisons, parce que effectivement il m'a bien occupé en télétravail quand j'en avais marre de bosser, aussi parce que j'y jouais avec un pote et que vraiment on était à un stade où on s'envoyait nos stratégies par message quand on jouait parce qu'on avait vraiment passé notre temps dessus. J'ai passé 60 heures sur Hades, c'est vraiment un excellent jeu, en tout cas de mon point de vue. Et du coup donc Hades 2, qui est la première suite, donc si vous avez bien suivi, la première vraie suite du studio, même si bon
Donc,
je
c'est ça,
pense qu'on peut vraiment.
il y a des idées communes qu'on trouve entre les jeux, c'est-à-dire finalement Bastion, Transistor, Pyre, il y a une espèce de cheminement malgré tout. Hades 2 est vraiment une suite officielle d'Hades, il n'y a pas de. Enfin, c'est
Oui,
pas un nouveau concept, machin, les mecs ont repris le même univers, le même truc et on y va, quoi.
ouais, en fait, ils ont trouvé vraiment. Je pense qu'ils ont une recette d'action, action vue du dessus, un peu roleplay, avec une forte importance de la narration, qu'ils ont pas mal testé sur leurs trois premiers jeux. Et Hades, ça a été la formule gagnante, puisqu'on parle d'un jeu qui a été dans les nominés des Game Awards 2020, dans les nominés pour Game of the Year. Donc, généralement, il y a un indé. Donc, c'est-à-dire que c'était vraiment l'indé de l'année. Et aussi, c'est un jeu qui s'est très très bien vendu, je pense, puisqu'ils ont décidé d'en faire une suite, qui est donc Hades 2, qui est sorti lui aussi en septembre mai 2025, le même mois que Silksong, comme quoi.
Ça fait un sacré mois, hein. Quand tu regardes pour les indés, ça fait quand même deux énormes jeux, parce que Silksong, bon, c'était un truc qui était extrêmement attendu, qui est vendu à un prix plus que correct, vu le nombre d'heures qu'il faut pour le finir, la quantité de contenu, l'amour qu'il y a dans ce jeu, et j'ai l'impression qu'Hades 2 c'est pareil, c'est pas bien cher par rapport comment dire, à la quantité de contenu que ça promet, et puis surtout la qualité, au moins perçue par le plus grand nombre, puisque moi je suis pas fan de roguelike, hein, je le dis tout de suite, mais voilà, la qualité perçue par tout le monde du jeu, ça fait quand même pour, entre guillemets, 25 balles, t'en as quand même pour ton argent, quoi.
Ouais, quand c'est bien fait et que le système, le fait de refaire la même chose, parce que mine de rien, c'est quand même ça le concept du roguelite, c'est de refaire des runs jusqu'à ce qu'on en ait marre ou qu'on arrive à finir le jeu. C'est des choses qui sont répétitives par nature et il y a un moment où on se lasse. En général, moi, un roguelite me tombe des mains au bout de 20 heures, à peu près. Hades, ça a tenu plus longtemps. Comme
À
quoi.
60, hein, donc quand même.
Oui, bah c'est parce que alors là on va pouvoir parler un petit peu de ce qui fait les qualités des deux Hades, puisque tout ce que je vais dire pour le premier est valable pour le deuxième, de manière générale. C'est que donc il y a effectivement c'est un roguelike, donc l'idée on va jouer un personnage donc Melenoé ou Zagreus selon le jeu, qui a pour but soit de sortir des enfers, soit de rentrer dans les enfers selon si vous êtes dans le 1 ou dans le 2. Mais l'idée c'est de parcourir quatre zones. Enfin, quatre régions qui sont composées d'une dizaine de zones dans lesquelles il y a souvent des combats, mais aussi des rencontres avec des PNJ, qui sont toutes clôturées par un boss à la fin. Vraiment un gameplay un petit peu arcade à l'ancienne. Les runs durent entre 30 et 40 minutes, selon le temps que ça vous prend. Et si vous arrivez au bout de la quatrième région, bah, félicitations, vous êtes arrivé au bout de la run. Là où le jeu est intéressant, c'est que il va utiliser tout son concept de répétition des runs dans sa progression narrative. Et donc bah, c'est là en fait où on accroche ou pas. C'est si vous accrochez un petit peu à l'histoire, ben, le fait de finir une run, ça vous débloque ben, des nouveaux dialogues avec les personnages. Il y a des quêtes. Enfin, il y a le scénario principal évidemment. Ne serait-ce que battre le boss final une première fois ne clôture pas l'histoire, je dirais même, elle permet de commencer un nouvel arc narratif.
Ah,
Dans certains cas, voilà,
carrément.
un
Donc
nouvel
en
arc.
fait, ça te, oui, finalement, ils ont tellement intégré la mécanique de roguelike à l'intérieur de l'histoire que le fait de le finir ne fait que tu le finis pas vraiment. En fait, t'as envie de recommencer juste pour avoir l'histoire derrière.
En fait, ils ont une petite astuce quand tu finis à battre le boss du jeu dans lequel tu joues, tu as des petits dialogues. Qui vont faire un peu avancer l'histoire. Donc en fait, généralement, l'idée, c'est de comprendre un peu la motivation de ton héros quand tu bats le boss la première fois. T'es très fortement incité à recommencer pour pouvoir continuer à développer tout ça. Tu rencontres aussi des PNJ, tous issus de la mythologie grecque, hein, globalement. On est habitué, dans le jeu vidéo, notamment avec les RPG japonais, à avoir des reprises de mythologie, mais un petit peu à une sauce locale, sans forcément comprendre les fondements. Il y a un très très gros travail de l'équipe d'Hadès sur qui sont ces dieux, quelles sont un peu leurs histoires. Zagreus, c'est un dieu qui existe dans la mythologie, c'est vraiment un dieu mineur un peu caché, mais ils l'ont trouvé comme ça. Tu vas rencontrer des figures mythologiques, tu vas rencontrer Icare dans le deuxième, tu vas rencontrer Thésée et le Minotaure en guise de boss dans le premier jeu, tu vas affronter l'Hydre. Donc vraiment, il y a vraiment un appel à tout un imaginaire mythologique qui est très très chouette. Et moi, je trouve est extrêmement bien fait. Et du coup, tous ces personnages, en fait, même si c'est des dieux, c'est aussi un peu des êtres humains. Ils ont leurs relations et parfois, il y a des petites quêtes secondaires qui vont se débloquer. Et notamment, je pense qu'eux ont très bien compris pourquoi Fire Emblem Three Houses avait marché et pourquoi personne n'a marché. C'est qu'il y a tout un concept de progression de relation entre ton personnage et les PNJ. Et évidemment, il y a des histoires de romance derrière. Et c'est ça qui fait que le jeu aussi a très très bien marché. C'est qu'il y a toutes ces histoires de relations combinées à un chara-design qui est vraiment exceptionnel.
Effectivement, le jeu est, on l'a pas dit, mais c'est qu'on apprécie ou pas le genre roguelike, il faut quand même reconnaître que le jeu a une vraie personnalité, et notamment tous les personnages sont extrêmement bien écrits.
Quand je disais que c'est des dieux grecs dans tous les sens du terme, tous les dieux de l'Olympe sont des beaux gosses, hein. C'est incroyable.
C'est incroyable, c'est vraiment, il y a les dessins sont incroyables. En plus, comme c'est de la 2D avec un style un peu particulier, puisqu'on dirait, on dirait presque un comics finalement. La façon dont c'est fait, même l'animation, le mouvement, même si c'est des images fixes, il y a quand même une impression de mouvement, c'est assez exceptionnel, hein.
Ouais, dans le 2, il y a des petits effets quand tu rencontres les personnages. Par exemple, Zeus, tu vois il y a une espèce de
Tu vois
gestion de la
ses
lumière
grosses
qui fait que t'as.
couilles dépasser de son calmar, et ça fait quand même
Exact.
plaisir.
Alors non, ça c'est Dionysos.
Ah merde!
Je plaisante même pas, allez voir à quoi ressemble Dionysos dans le 2.
Putain,
Mais
je
du
vais
coup,
aller regarder du coup, ça m'interroge.
il y a des petits effets de lumière par exemple sur Zeus pour faire croire que son armure reflète des éclairs. C'est vraiment très très cool. Et moi je pense que c'est ça aussi qui fait la qualité des deux Hadès. C'est que c'est un roguelike, mais les roguelikes, souvent, c'est assez austère.
Alors,
Tu l'as vu, ce
Dionysos, je confirme, je sais que ouf.
Il est incroyable, hein?
C'est incroyable, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce. Ah, mais est-ce que le slip banane léopard, on avait envie de voir ça? Oui,
Ah,
ça va être très
j'étais pas
clair.
prêt, ce genre-là. Quand tu vois bien la bourse, en plus, c'est incroyable. Ils sont bien barrés.
Ah, je pense qu'il y a. Oui, voilà, ok. Très bien. Ça colle bien en plus au caractère de Dionysos, puisqu'on rappelle que dans la mythologie grecque, tous les dieux ont ils ont des traits très humains en réalité. Donc voilà, ça colle bien à Dionysos, ouais, le dieu de la fête, du vin, machin, le slip banane,
De la
pourquoi pas.
débauche.
De la
Ah bah
débauche.
là, dans le 2, c'est le dieu de la débauche, 100%. Hein.
Putain, quel enfer. Ok,
Mais du coup, voilà,
excuse-moi, je t'ai coupé.
non, mais c'est bien, ça me permet de justement là où je voulais en venir, c'est que je trouve que par rapport à d'autres roguelikes qui sont assez austères, il y a vraiment une envie de créer un univers qui donne envie en fait de s'investir dans le jeu et de rencontrer les personnages. Trouver des atouts cachés. Alors dans le 2, il y a des onsen, des sources d'eau chaude pour pouvoir se baigner, donc il y a aussi des petites scènes à voir là-dedans, tu vois. Donc il y a plein de petites carottes en fait qui, si t'es intéressé par ce genre d'aspect du jeu vidéo un peu narratif aussi à ses personnages, et moi je tombe dedans assez facilement, en fait c'est vraiment un plaisir de jouer à Hades. En tout cas, t'as la part, ça, je trouve que ça compense un peu la répétitivité des runs, puisque ça reste un roguelike, mine de rien, qui est très
Alors,
varié.
même si ça reste en soi, la partie purement action du jeu marche plutôt bien, faut le dire, par rapport à. Je pensais à, tu vois, des jeux comme Binding of Isaac, où effectivement, en termes d'univers, c'est extrêmement austère, en termes de gameplay, c'est très compliqué, même s'il y a beaucoup d'options, c'est très compliqué de rentrer dedans. Là, c'est vrai que ça reste un jeu d'action pur, bien foutu, avec effectivement cette histoire de. Un tir primaire, un tir secondaire, entre guillemets, enfin, une attaque primaire et une attaque secondaire sur chaque arme, avec des trucs vraiment très différents, avec des runs que tu peux vraiment épicer comme tu veux. Et une pleine carotte et le dieu du slibard en léopard, j'ai très peur. Je confirme Kirby, si tu peux. Mais voilà, il y a ce côté, la base du jeu en termes de jeu d'action, si c'était pas un roguelike, si c'était un truc avec 10 niveaux linéaires de plus en plus difficiles, ce serait un excellent jeu, tout court. Déjà. Là, le
Ah
fait que
oui.
ce soit un roguelike et que ça se renouvelle à chaque partie, ça donne une petite incitation en plus. Et en plus, effectivement, t'as toutes ces petites carottes qui se trimballent à droite à gauche pour t'encourager à recommencer finalement.
Oui, c'est ça. Donc du coup, il y a un gameplay nerveux d'action. Donc comme tu l'as dit, une attaque principale, une attaque secondaire. Alors dans le premier, c'est un projectile, dans le deuxième, c'est un glyphe, mais j'y reviendrai un petit peu après. Tout ça, en fait, donc ça, c'est la base des compétences qui sont communes à toutes les armes que peut utiliser le personnage. Il y a dans les deux jeux 6 armes différentes, sachant que c'est pas les mêmes dans le 1 et dans le 2. Et chaque arme a ce qu'ils appellent des aspects, en fait, qui est une espèce de variante dans le gameplay. Genre les mecs ils se sont dit ah, mais on pourrait faire trois variantes d'arcs différents et ce serait rigolo et ils les ont mis dans le jeu pour le coup c'est ces éléments donc déjà juste ça permet d'avoir des choses assez variées au niveau du fait de renouveler ses runs puisque tu t'es encouragé à changer d'arme pour tester différentes combinaisons et c'est là que vient le deuxième système du jeu que moi je trouve est génial et qui met en scène les dieux grecs, c'est les bénédictions. Tu vas rencontrer par hasard Zeus, Poséidon, Arès, Aphrodite. Ils vont te proposer de faire un choix parmi trois bénédictions qui vont renforcer tes compétences, donc tes attaques, tes techniques, tes projectiles. Ça va peut-être te
Alors,
donner des bonus d'action aussi.
est-ce que c'est façon Dead Cells, c'est-à-dire que chaque bénédiction vient finalement avec une contrepartie, une partie malédiction? Je rappelle, dans Dead Cells, quand tu choisis un truc, c'est genre on double tes points de vie, mais t'es deux fois plus lent. C'est ce
Non,
genre de
non,
connerie-là. Où là, c'est
là
vraiment
ça,
pure bénédiction.
c'est de la. Alors, il y en a qui peuvent avoir un petit. Alors, tu en as un qui est KO, qui lui a un côté, je t'offre une bénédiction, mais pendant plusieurs combats, tu vas avoir une contrainte, qui peut être un peu vénère, du style tu perds des points de vie quand t'attaques.
Ah
Enfin, quand tu
oui.
fais ton attaque, donc il faut faire attention à ce que tu fais. Faut oublier quelques réflexes,
Oui, taper, 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 taper.
mais généralement, les bénédictions des dieux, ça te renforce. Donc en fait, c'est vraiment une montée en puissance à la Metroid, mais sur l'échelle de 30 minutes. Ce qui est extrêmement grisant, parce qu'à la fin, quand tu as certaines combinaisons, tu vas faire trois attaques, tu vas remplir la moitié de l'écran de projectiles et voir que quasiment tout le monde est mort, au bout de 30 secondes. Ça peut être très très grisant quand tu connais tes combinaisons. Donc t'as plein de choses. Hein. Effectivement, tu vas pas avoir qu'un dieu. Tu peux avoir un pouvoir de Zeus et un pouvoir de Poséidon qui vont avoir des effets différents, mais qui du coup peuvent se renforcer. En plus, tu peux avoir des pouvoirs qui combinent les pouvoirs de dieux qui sont extrêmement puissants. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Tu peux aussi modifier tes armes en plein cours de jeu grâce au marteau de Dédale.
Ah, c'est pas mal ça, parce que ça n'existait pas dans le premier, je crois. Tu commençais avec
Si,
une arme,
si,
tu
si,
restais
si.
avec... Ah si, ça existait.
Alors, en fait, tu restes avec ton arme. Si tu commences avec l'épée, tu restes avec l'épée. Mais le marteau de Dédale te permet de modifier ou de renforcer certains aspects de ton arme. Et t'as des
Ouh.
trucs très rigolos. Dans l'épisode 2, par exemple, on a un crâne en guise d'arme. Le crâne tire des petits crânes, un par un. Et bah, tu as une modification qui te permet de tirer les quatre d'un coup. Bah, en fait, en fonction de ce que tu as comme bénédiction, ça peut être très très fort. Genre, typiquement, pouvoir balancer une explosion avec Estia, une explosion de feu en une fois.
On est
Et
d'accord
tu
que
vois les barres de vie.
l'objectif derrière, c'est toujours de d'essayer entre guillemets d'avoir l'impression de baiser le jeu. Tout est calculé, hein. Y a rien qui est laissé au hasard. Mais
Bah, en fait,
l'idée,
t'en
c'est de
as
trouver des
besoin.
combinaisons de ouf pour arriver au bout de ta run.
Il y en a besoin pour deux raisons. Déjà, un, parce que généralement, le boss à la fin de la run, il est un peu costaud. Il a des patterns assez forts. Souvent, il a deux phases. Sinon, c'est pas drôle. Donc, il y a quand même des checks avec les gardiens, les boss qui sont assez forts. Et même, oui, tu es encouragé à le faire parce que tu sens que c'est dans le game design. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont fait un système de difficulté qui est très intéressant, qui est le système de hit, qui a été renommé système de cauchemar dans le 2, mais qui est exactement la même chose. En gros, la comparaison avec Kid Icarus, c'est pas mal, mais pas
Bah,
exactement pertinente.
c'est pas tout à fait ça, mais pour moi c'était un système de risque-récompense, c'est-à-dire que tu peux choisir d'augmenter la difficulté de ta run et tu vas augmenter les récompenses qui vont avec à la fin.
Alors, oui et non.
Je me souviens du 1, mais après il y a peut-être une petite subtilité qui m'a échappé.
Alors, en gros, l'idée, c'est qu'effectivement, en augmentant la difficulté, tu encourages à augmenter la difficulté puisque tu vas obtenir une ressource spécifique qui permet d'améliorer tes armes. Mais en soi, tu pourrais très bien continuer à faire le jeu en difficulté normale sans te prendre la tête et continuer juste à profiter de l'histoire. Ça, c'est le côté plutôt cool. Là où la difficulté est intéressante, c'est qu'en fait, tu n'augmentes pas, tu choisis ce que tu augmentes comme difficulté. Par exemple, tu peux demander tout simplement à ce que les ennemis aient plus de points de vie. Ou alors,
Ah.
tu demandes à ce que les ennemis dans une salle, il y en ait plus la prochaine fois, il y ait 20% plus d'ennemis. Tu peux aussi dire, certaines fois, je tomberai sur des ennemis avec des capacités spéciales, sur lesquelles il va falloir déjà savoir ce que ça fait, et gérer aussi cet ennemi supplémentaire qui est du coup plus dur à gérer. Tu en as une qui permet d'avoir la version difficile des boss, qui sont vraiment difficiles pour le coup.
Oui, donc en fait, tu peux vraiment régler à la carte, c'est pas un niveau de difficulté global finalement de l'ensemble du truc, tu peux vraiment aller décider d'augmenter tel ou tel aspect.
Tu t'imposes, tu t'imposes des restrictions, donc ça peut être soit tu augmentes la difficulté des gens en face, soit aussi tu peux te donner des contraintes type j'ai 9 minutes pour finir la région en cours. Ou alors le système, les deux Hades ont un système de progrès, de méta-progression, comme on dit, où en gros tu fais progresser ton personnage en revenant dans le hub après ta mort, qui permet d'améliorer le nombre de points de vie de départ par exemple. Tu peux dire celui-là, il va avoir des restrictions, je vais avoir des choses qui vont pas s'activer dans ce système de progression. Je vais aussi ne pas, des fois je devrais avoir une bénédiction d'un dieu, j'en aurai une qui sera pas disponible par exemple.
D'accord.
Voilà, c'est plein de petites choses qui fait qu'en fait tu peux grappiller pour augmenter petit à petit. Et en gros les mecs ont, je crois, évalué le nombre de paliers de difficulté à 64, en gros.
Je crois que c'était la même chose dans le premier où tu pouvais. Ah, j'avais le chiffre me parle par rapport au premier où il y avait un truc comme ça aussi où effectivement tu pouvais. Faire une run, la run max, en fait, finalement, la plus difficile possible, c'est d'activer tout ce bordel-là et d'y aller comme ça. Et en fait, c'est une run de l'enfer parce que t'as un point de vie, tu peux pas regagner de vie, tu peux pas avoir de bénédiction, tu peux pas augmenter ton arme, enfin, c'est vraiment le truc complètement fou.
Il y a des gens qui arrivent à le faire. Je ne sais pas, ouais, faudrait que je regarde si des gens ont essayé de le faire dans le premier. Moi, je ne sais plus à combien j'avais atteint. Je pense que j'avais. Bon, alors moi, j'avais affronté tous les boss en difficile, qui était un peu mon challenge. Après, j'ai arrêté le jeu parce que c'était la partie rigolo. J'ai un pote qui, je crois, a atteint les 30 ou les 40, ce qui est déjà très très vénère. Il y a un stade où tu le fais pas avec n'importe quel équipement.
Oui, c'est ça. Il y a un stade où en fait, il faut un certain build. Enfin, il faut déjà avoir bien poncé le jeu pour avoir de l'équipement très 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 fort pour y aller. Mais je crois qu'effectivement, quelques personnes, j'avais vu une news genre sur Hades où il y a la première personne qui avait réussi à finir le jeu en activant tout. Et effectivement, c'est quand tu regardes le truc, tu te dis putain, mais comment c'est possible? Et en fait, alors faut être très fort, hein, quand même le dire. Mais effectivement, ça se fait pas avec n'importe quel équipement, pas de n'importe quelle manière. Faut maîtriser, faut avoir un niveau de lecture du jeu qui est très largement supérieur au commun des mortels.
Oui, on parle de difficulté à la carte, de build cassé, de build complètement pété. Le jeu demande un certain nombre de réflexes et de lecture de pattern, pas un niveau d'un Dark Souls, mais ça demande quand même d'être assez attentif pour pouvoir être terminé. En fait, généralement, d'ailleurs, l'idée, c'est que généralement, la première fois où tu rencontres les boss, tu vas prendre cher. Et puis, au fur et à mesure que tu les rencontres, tu vas commencer à comprendre comment ils fonctionnent et pouvoir les gérer dans des situations plus compliquées ou avec des restrictions. Et c'est une des grandes qualités de ce jeu d'ailleurs, hein, c'est que les patterns sont très lisibles, même si c'est le bordel, et qu'il peut se passer beaucoup de choses à l'écran. Et ce qui fait que ça reste très agréable à jouer, même quand ça commence à devenir un peu tendu.
Tout à fait. Est-ce que tu veux rajouter autre chose ou est-ce qu'on a fini sur Hades?
Je peux parler un peu du 2, puisque... En fait, j'ai parlé des deux d'un coup, mais...
Est-ce qu'il y a des choses, effectivement, plus spécifiques aux deux? On a parlé, c'est pas tout à fait la même histoire, mais l'idée générale reste la même, on est d'accord. Mais il y a quand même des petites différences, notamment, il y a quelques nouvelles mécaniques, je suppose, il y a quelques petites choses qui sont rajoutées.
Ouais, alors, déjà, faut se dire que le 2, c'est le 1 en mieux. Enfin, vraiment, je suis arrivé dedans, j'étais comme dans des chaussons. C'est très agréable, mais 5 ans après, je suis carrément ok avec cette proposition parce que le jeu est vraiment excellent. Ça, on va commencer par ça. Il est au niveau du premier. Si vous aimez le premier, vous aimerez le deuxième. Les nouveautés, c'est que déjà, Mélinoé ne se joue pas exactement comme Zagreus, puisqu'elle a une capacité qui change. Zagreus avait des projectiles. Elle va pouvoir poser une zone au sol qui va pouvoir bloquer les ennemis sur place. Ce qui est très utile puisqu'il y a beaucoup d'ennemis qui aiment bien vous pourchasser et qui sont assez rapides. Donc il y a un petit peu de stratégie à faire là-dessus. Il y a des nouvelles armes, évidemment, des nouveaux dieux avec des nouvelles bénédictions qui sont disponibles. Parmi les armes, moi, les petits trucs que j'ai trouvé rigolos, donc il y avait ce fameux crâne qui balance des petits crânes que je trouvais extrêmement amusant. Il y a une espèce de combinaison de combat, un peu genre Power Armor de Starship Trooper, qui permet de balancer des missiles. Je trouve ça assez rigolo, surtout dans un jeu qui se passe en mythologie grecque. Puis il y a des trucs un peu classiques, genre des dagues, qui sont très rigolotes. Franchement, les dagues sont très très chouettes. Tu joues un peu comme un ninja. Voilà, il y a quelques nouveautés, puisque maintenant il y a la déesse de la lune qui vient nous donner des sorts très puissants, type un Kamehameha, ou la possibilité de transformer ses ennemis en moutons, ce qui est très très drôle et assez efficace.
Oui,
Bien sûr.
c'est un petit peu inspiré de 2-3 trucs, mais ok.
Ouais.
Fin classique, on va dire.
Un classique du jeu vidéo occidental à base de verre, il me semble. Enfin, si c'est celui-là dont on parle,
On parle de
c'est à forme
celui-là.
j'aime. Ouais, on parle de celui-là. Il y a beaucoup, évidemment, une nouvelle histoire, plein de nouveaux PNJ, parce que la majorité des PNJ du premier sont absents à part les dieux grecs, et du coup il y a de nouvelles figures de la mythologie qui sont présentes. On retrouve Ulysse, on va voir Némésis qui fait partie des personnages présents.
Polyphème, Prométhée, enfin
Ah bah oui,
Prométhée, pardon.
Prométhée, oui, Prométhée.
Alors Prométhée, moi j'ai vu sa tronche, il a l'air sympa.
Ah c'est, oui, ah, tu Quand tu le regardes de loin, ouais, il est costaud hein, pour
Non mais
BTR.
c'est... voilà.
C'est un bon skill check. Et surtout, en fait, le point important de cet épisode, et ce sera pas un spoil puisqu'en fait c'est dans la bande-annonce du jeu, c'est qu'il n'y a pas un parcours, il y en a deux cette fois. Puisqu'on pourra aller soit en enfer casser la gueule à Chronos, soit monter au sommet du mont Olympe pour essayer d'aider les dieux. Et ce qui est assez intéressant, c'est que autant le chemin jusqu'en enfer peut ressembler un petit peu à ce qu'il y avait dans le premier en termes d'enchaînement de salles, autant dans le chemin vers l'Olympe, ils ont décidé de faire des trucs un peu plus originaux. Par exemple, la première zone de la surface, tu es dans une ville, tu débarques sur la place centrale, et en fait, tu vois directement tout ce que tu peux, les salles où tu peux aller avec les bonus que tu auras, et c'est à toi de choisir où tu vas, sachant que tu pourras pas toutes les faire. Donc il y a un petit peu, la progression est un petit peu différente, c'est assez chouette. Globalement on reste sur les mêmes bases, hein. Mais voilà, il y a un peu plus de décisions possibles. Il y a un niveau où tu peux choisir d'ouvrir des accès à condition de réaffronter des ennemis. Donc est-ce que tu es prêt à prendre un risque pour un meilleur bonus?
Oui, t'as
Donc voilà.
toujours cette histoire systématiquement de risque-récompense, mais du coup, tu choisis au départ d'aller vers l'Olympe ou d'aller vers l'enfer. Il y a pas, tu peux pas bifurquer entre deux.
Non, non, tu dois choisir entre l'un des deux.
Ok.
Alors peut-être qu'à terme, je devrais faire les deux de suite. Je me pose la question si ça va arriver ou pas.
Il
Mais
y a
en
de
tout cas,
bonnes
tu peux
chances quand
choisir.
même.
Alors en tout cas, voilà, les deux sont calibrés pour durer une demi-heure. La surface est un peu plus dure que les enfers, pour le coup. Alors, je sens très vite que tu sens que les premiers boss sont d'un niveau un peu plus costaud que les premiers boss de l'enfer. Et après, de manière générale, moi je trouve que la grande qualité d'Hades 2 par rapport au premier, c'est que tu sens qu'en fait ils se sont fait pas mal de thunes avec le premier, ils ont pu mettre des moyens. Et il y a des trucs très fun, comme notamment le deuxième boss, qui est un groupe de sirènes, un groupe de rock, avec leur propre chanson. Et tes adversaires, c'est la chanteuse, la guitariste et la batteuse. Et si tu en butes une des trois, bah, sa partition dans la chanson s'arrête.
Ah, pas mal. Effectivement, il y a
Et
quelques bonnes idées de ce genre-là, quoi.
voilà, tu sens qu'il y a du budget en plus qui a été sué, mais c'est vraiment très chouette de retourner sur Hades 2. Si vous avez joué au premier, vous hésitez pour le deuxième, bah, vous pouvez y aller, c'est un super jeu. Si vous n'avez jamais joué à Hades, je vais plutôt vous recommander le 2.
Ah.
Alors, pourquoi?
Le
Parce que
2 avant
globalement.
le 1 parce que les petites améliorations font que
En fait,
finalement c'est le meilleur des deux ou...
c'est juste que c'est un style de jeu qui fait qu'à mon sens, il y a moins d'intérêt à. Si vous voulez en faire qu'un, faites le 2 globalement. Hein. Mais. C'est pas un jeu vraiment. Enfin, ça reste un jeu avec une emphase narrative, mais qui est assez légère, mine de. Enfin, qui est assez légère par rapport à un RPG, par exemple. Et je pense qu'en fait, vous pouvez très bien jouer aux deux et vous amuser avec les personnages, qui sont quand même beaucoup de personnages inédits. Il y a quelques rappels loin, évidemment. Mais vous perdrez pas trop l'histoire et vous aurez plus de contenu, plus le gameplay amélioré. Donc, moi, je pense que vous perdez pas au sens, à commencer par le 2. Si vous voulez faire
Ok.
les deux, franchement, allez-y, parce que c'est pas des jeux qui sont très chers en plus, hein, ils sont à 25-30 balles de mémoire.
Tant que tu les veux pas en physique, parce que la version Switch d'Hades est un petit peu pricey.
Oui, c'est à quoi je reste sur les prix de
Voilà,
base.
mais disponible en eShop, en plus il est très régulièrement en promo, donc c'est vrai qu'à 10 balles, c'est souvent à 10 ou 15 balles. À 10 ou 15 balles, il y avait quelqu'un qui m'avait dit il y a pas longtemps, c'est vrai que 1 euro pour 4 heures de jeu, c'est quelque chose qui est assez rentable, assez vite. Et
Oh ouais, non, mais
effectivement,
c'est.
le ratio est assez imbattable. Alors après, faut aimer la répétitivité malgré tout. Je sais que certaines personnes, ça les fatigue assez vite.
Ah, je comprends parfaitement. Moi, ça fait pas. Quand j'ai le premier, j'ai attendu un peu avant de l'acheter parce que je me suis dit, bon, ça a l'air cool, mais c'est un roguelike. Et moi, je me connais sur les roguelikes. Au bout d'un moment, j'en ai marre. C'est comme
Ce qui me
jeu.
paraît normal.
Voilà. Moi, c'est l'exception. Mais après, comme tous les jeux, de toute façon, au bout d'un moment, tu te lasses.
Complètement. Bah surtout un jeu comme ça où effectivement. Alors après, ça reste un jeu d'action. C'est effectivement, c'est pas. C'est un peu particulier comme roguelike. Je sais que un Binding of Isaac, j'aurais pas passé plus de 2 heures, quoi. C'est.
Ouais. Après, ce qui motive un peu dans Hades, c'est que t'as quand même un fil narratif, des PNJ, si il te plaît, tu peux t'investir dedans,
Des
et que
slips
du
bananes,
coup,
léopards.
voilà, c'est ça, et que du coup, il y a un moment, ben, tu arriveras à la fin du scénario et tu peux dire, bah, ok, c'est cool, j'ai fini le jeu. Je
Oui,
peux
finalement, tu
arrêter
peux. Ouais.
et aller jouer à
T'as une
Metroid
vraie
Prime
fin.
4.
C'est
Et aller
ça.
jouer à Prime 4 parce que c'est probablement ce qui va se passer dans ma vie.
C'est probablement ce qui va se passer. Bref, allez, on va s'arrêter là. C'était pas mal pour aujourd'hui. On vous fait. Alors, on se retrouve dans 2 semaines. Vous aurez remarqué que le podcast avance au fur et à mesure. Hein, il était très, très, très en retard la dernière fois. Là, il était moins en retard. Donc, au fur et
Est
à
sorti la
mesure,
veille.
c'est ça. Le dernier numéro sortira au temps. Voilà, à l'heure normale. C'est à peu près ça mon objectif. Donc normalement on se retrouve la semaine prochaine en podcast. Et dans 2 semaines, eh ben, je ne sais pas du tout de quoi on va parler. J'ai pas regardé les sorties, j'ai rien regardé, j'ai rien préparé, donc on verra bien. Voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, on vous tient au courant. Nous, de toute façon, on préparera ça dans notre coin. On vous fait de très gros bisous et on vous dit à la prochaine fois.
À bientôt,
Ciao tout le
les
monde!
potes. Bisous, bisous.